grand dialogue
sigi ka foba
edo woni wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Personne n'est né avec la haine pour l'autre du fait de la couleur de sa peau ou de son origine ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent donc apprendre à aimer. Telle est la vision de Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 12 juin 2014. Bienvenue à ce grand dialogue du jour. Le débat d'aujourd'hui porte sur la menace djihadiste qui pèse toujours sur le Mali. Voici donc les différents axes de ce débat. La déclaration de Moussa Mara est-elle une impuissance du Mali? L'ultimatum des trois groupes à les rejoindre est-il conforme à l'accord de Ouagadougou? L'interpellation du gouvernement et la suite des négociations. Nos invités, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Maître Khadija Traoré de la Coordination des acteurs pour la paix, Cheikh Oumar Diallo, politologue. Merci à vous, messieurs, madame, pour votre disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, à la mise en onde, Peting Diara. La communauté internationale sous-estime la menace que représentent les groupes djihadistes. Retranchés dans l'extrême nord du Mali aux mains des séparatistes Touareg, c'est ce qu'estime dans une interview à l'agence Reuters le premier ministre Moussa Mara. Moussa Mara va même jusqu'à ironiser, pour les djihadistes, il y aura le MNLA au petit déjeuner, le Mali au déjeuner et l'Occident au dîner. Moussa Mara redoute que la présence djihadiste dans les rangs des séparatistes ne voue tout accord de paix à l'échec. Hier mardi, les trois groupes armés MNLA, MAA et HCUA ont lancé un ultimatum aux groupes dissidents à les rejoindre dans la perspective des prochaines négociations. Pour certains analystes, l'initiative vise à afficher une certaine unité aux yeux de l'opinion, mais elle n'ira pas loin tant les intérêts de ces groupes sont divergents. Alors, concernant la déclaration de Moussa Mara, est-elle une impuissance aujourd'hui du Mali? Politologue Cheikh Oumar Diallo.
Je pense que, déjà bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Une fois de plus, merci de m'accorder cette invitation à votre débat. Je pense que la déclaration du Premier ministre malien n'est pas en soi un aveu d'impuissance. C'est plutôt une tentative d'alerter la communauté internationale, d'alerter l'ensemble de nos partenaires sur le risque réel qui existe de contamination de l'ensemble du Sahel face au terrorisme et face au djihadisme. Et au regard de la situation que nous vivons actuellement, marquée par cette impossibilité de faire la distinction concrète entre les groupes à revendication politique et les groupes à revendication terroriste, il est important que l'on continue à lancer ce message à la communauté internationale pour lui demander de rester en état d'alerte face à cette menace djihadiste qui continue d'ailleurs à sévir, notamment à travers les attentats récents à Aguelok.
Alors Ousmane Cornio, vous êtes spécialiste de sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du Premier ministre?
Bon, merci beaucoup. Je crois que la déclaration du Premier ministre sur la menace djihadiste, bon, est-ce que c'est une impuissance? Je ne pense pas. C'est plutôt un éclaircissement de la situation. Il a décrit réellement la situation telle qu'elle est. Je crois qu'il faut qu'on revienne à l'évidence. Aujourd'hui, sur le terrain, la différence entre djihadistes, MNLA, HIA, je crois qu'elle est mince. C'est la même classe d'équivalence, si je peux parler mathématiquement. Et c'est ce que le Premier ministre a tenté de dire. Mais quant à l'impuissance, qu'il le dise ou pas, on sait que le Mali est impuissant face aux djihadistes.
Alors quel est le deal qui peut exister entre le MNLA et ce groupe djihadiste?
Oui, c'est-à-dire que c'est des intérêts communs. Vous savez que c'est une stratégie d'instrumentalisation. En réalité, tous les problèmes du Nord, c'est les problèmes des djihadistes qui font du narcotrafic et de la criminalité organisée. Et il faut trouver des agents, des éléments. Et là, donc, ils ont instrumentalisé le MNLA, Ansardine, le Moujao. Ils sont tous instrumentalisés par les narcotrafiquants et les djihadistes.
Mais qu'est-ce que le MNLA gagne dans cette fusion?
Oui, vous savez que quand on instrumentalise quelqu'un, c'est qu'il tire bénéfice.
En quoi?
Pécuniairement. Ils sont payés. Et les rançons qui sont payées aux djihadistes, aux narcotrafiquants qui enlèvent les otages, vous croyez que c'est eux seuls qui empochent? Ils sont tous les MLA intermédiaires. Et je crois que c'est un crime, c'est de la criminalité organisée où tous ceux qu'on vient de citer sont des acteurs. Et ça, ça complique vraiment la situation par rapport aux négociations futures.
Alors, Cheikh Mar Diallo demande la parole. Juste avant de vous donner la parole, permettez à madame d'intervenir sur cet aspect. Alors, madame, aujourd'hui, le MNLA et les deux autres groupes, le MAA et le HEUA, lancent un ultimatum aux autres mouvements. Est-ce que vous pensez que cet ultimatum est en accord, est en phase avec l'accord de Ouagadougou?
Bon, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un problème aussi épineux qui est le problème du Nord, le problème du Mali. Et je m'incline sur la mémoire de toutes les victimes, de toutes les années et des victimes récentes. Et je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés. Et je salue aussi le courage, la vaillance de notre peuple. Le courage de la population du Nord, qui certains sont forcés à l'exil, acceptent de rester. Par rapport à la déclaration du Premier ministre, moi je pense qu'il faut tenir un langage de vérité.
C'est-à-dire?
Il est temps qu'on dise les choses telles qu'elles se présentent. Il a eu le courage de le dire, on ne peut que saluer. Les terroristes, ils n'ont jamais quitté le Nord. Ils ont été toujours au Nord. Ils y sont encore. Donc il est temps d'alerter l'opinion internationale, d'alerter la communauté régionale, d'alerter nos populations. C'est très important. Nous avons des conventions qu'on a ratifiées, qu'on a signées avec la communauté internationale. Ils sont débiteurs d'obligations. Donc il est temps qu'on les rappelle. Au-delà de l'accord de Ouaga, la résolution 2100 a dit clairement, décide de confier à l'AMINUSMA le mandat suivant, qui est d'aider les autorités par des activités de maintien d'ordre, d'aider de surveiller toute atteinte ou violation concernant les droits de l'homme, violation de droits humanitaires et autres, le déploiement intégral des observateurs, d'aider sur toutes les formes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la coopération, notamment l'AMINUSMA, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène qui gangrène non seulement le Mali, mais tout le monde entier. Donc je pense que la position du ministre est à saluer. Et l'accord de Ouaga, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que l'accord de Ouaga, c'est entre les groupes armés et les mouvements de résistance. Ce n'est pas entre les djihadistes, mais comme l'a dit
M. Cornion,
nous, on n'arrive jamais à faire le distinguo entre eux, MNLA, Boko Haram, Akmi, djihadistes. Pour nous, c'est la même chose.
Alors, nous avons également un représentant du parti du Premier ministre avec nous, Amadou Aya. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de votre leader, Moussamara?
Merci, bonsoir. À la suite de madame, je m'associe à tous ces propos pour m'incliner devant la mémoire des années de victimes.
Des victimes des derniers événements
Pas des événements, des plusieurs années, parce qu'il faut rappeler que cette rébellion remonte depuis l'indépendance. Donc il y a eu des milliers de victimes suite, n'est-ce pas, aux agissements des personnes égarées, comme ça, comme je pour moi, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Je crois que, comme tous les précédents ont eu à le dire, il ne s'agit pas d'un aveu. Mais c'est d'un constat qui est partagé par l'ensemble, en tout cas, des personnes qui suivent ce problème, ce phénomène, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons un émiettement de plusieurs groupes. Mais si on regarde à l'analyse au départ, bon, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent soit MNLA, aujourd'hui MCA, terroristes, djihadistes, je crois que c'est
donc vous
vraiment...
aussi, vous ne faites aucune différence.
Ce n'est pas nous, c'est vraiment une évidence, c'est la même chose. C'est les mêmes personnes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont attaqué. C'est à partir de Konaï, ils se sont repliés. Et voilà, et on a vu après, ils se sont séparés.
Retranchés,
c'est retranchés dans d'autres. Je pense qu'il faudrait que l'ensemble de la communauté internationale sache que ce problème n'est pas un problème malien. C'est un problème sahélien, c'est un problème, comme madame vient de le dire, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, on avait un moment, Boko Haram, qui était signalé dans la région. Ils sont là, aujourd'hui, ils sont en train de faire d'enlever de nos filles un peu partout. Et je pense qu'il faudrait que nous prenions la mesure, n'est-ce pas, de ce phénomène qui est en train de gangréner notre société. Et donc, le Premier ministre n'a fait que, n'est-ce pas, exprimer la réalité.
Relater la situation. Alors, Cheikh Oumar Diallo, je vous voyais demander la parole tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter au propos de madame ?
Je voulais essentiellement revenir sur une réalité qui s'impose au Mali également. C'est le fait que nous sommes en train de rentrer, en train d'essayer de rentrer dans un processus de discussion et de négociation qui va impliquer l'ensemble des signataires de l'accord de Ouagadougou. Alors je pense qu'il faut être très précautionneux dans la manière dont on arrive à présenter les choses, parce que je pense qu'il y a une complexité extrêmement grande dans les régions du Nord qui font qu'on ne peut pas simplement penser qu'il y ait une connivence et un accord direct entre le MNLA et l'ensemble de ces groupes. Aujourd'hui, je pense que l'intervention française, d'ailleurs, l'a prouvé. Les groupes comme le MNLA n'ont aucune influence réelle sur des groupes terroristes. Au contraire, ils ont été évincés très rapidement des différentes villes qu'ils ont réussi à occuper, notamment Gao et Tombouctou, pour finalement se retrouver éparpillés entre le Burkina et Kidal. Donc je pense que croire qu'il y a une entente directe, c'est plutôt un rapport de force qui existe entre un groupe comme le MNLA et celui du HCUA, qui est composé effectivement de certains éléments djihadistes qui se sont reconvertis à l'action plus politique que terroriste, mais qui continuent à agir dans le cadre des trafics, qui continuent à sévir dans le Nord et qui continuent également à participer à certaines des actions terroristes qui viennent déstabiliser le Nord du pays. Et ce que l'on a vu justement à travers cette déclaration commune de ces trois groupes-là à Alger, c'est que malgré leur déclaration qui invitait justement l'ensemble des autres mouvements qui étaient armés à déposer les armes ou bien à rejoindre les rangs d'un de ces trois groupes, eh bien le lendemain, un message leur a été donné à travers cet attentat qui s'est produit à Gaylock. Et je pense que ce n'est pas quelque chose d'anodin qui s'est produit simplement comme un événement comme un autre, mais c'est plutôt une succession d'événements qui viennent prouver que la tentative de tous les grouper au sein d'une même chose
ne peut pas marcher.
Ce qui peut marcher, c'est d'essayer justement de profiter de cet élan-là qu'il y a pour créer une distinction, forcer les éléments à déclarer leur distinction par rapport à toute action terroriste et par rapport à tout ce qui peut être autre que ça. Parce qu'on a un autre combat qui est plus important que le combat politique. C'est le combat contre ce terrorisme justement qui sévit au nord du Mali. Et pour réussir ce combat-là, il faut que l'on arrive au bout d'un moment à officiellement désarmer les groupes qui sévissent au nord du Mali, pour qu'on puisse, à partir de là, savoir que tous ceux autres qui porteront les armes seront des terroristes. Parce que tant qu'on ne va pas dans un processus où on force justement ces groupes-là, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont reconnus par un accord international. Donc il faut que, progressivement, on puisse les amener à une table de discussion qui permette le cantonnement et le désarmement, de sorte qu'on puisse faire la distinction définitive entre ces différents acteurs.
Alors, vous avez beaucoup de choses à dire. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Tout le monde aura quelque chose à ajouter là-dessus. Mais nous allons tout simplement observer quelques secondes de pause. Ensuite, je distribue la parole à tout le monde.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondel.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à ses goûts sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Nous sommes à la deuxième partie du Grand Dialogue qui parle de l'ultimatum des trois groupes aux autres mouvements à les rejoindre. Est-il conforme à l'accord de Ouagadougou? Nous poursuivons donc avec cette thématique. Comme invité, nous avons Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Maître Khadidja Traoré de la coordination des acteurs pour la paix, Cheikh Oumar Diallo, politologue, et Amadou Aya du parti Yelema. Je vous rappelle que nous parlons de la menace djihadiste qui pèse toujours sur le Mali. Alors Amadou Aya a demandé la parole juste avant qu'on passe la parole à Madame Amadou Aya. Vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Cheikh Oumar Diallo?
Oui, suite à cette analyse politique de la situation par M. Diallo, je crois qu'il y a d'autres questions qu'il faut se poser par rapport à cet accord de Ouagadougou où on connaît les principaux signataires. Mais ce qu'il faut ajouter, après cet accord de Ouagadougou, il y a également d'autres groupes qui ont apparu, n'est-ce
des
pas
dissidences,
des dissidences au niveau du MNLA. Donc d'où il est difficile aujourd'hui de dire que nous allons nous focaliser uniquement sur seulement les signataires des accords de Ouagadougou. Il faut prendre en compte les autres groupes et c'est pour cela que je crois que le gouvernement s'est mis dans la dynamique de résoudre cette question dans le cadre vraiment d'une concertation, c'est-à-dire d'un dialogue inclusif. Je pense que c'est là la difficulté, parce que ces groupes, ils sont tellement mobiles, et comme l'a dit Cornio, on ne sait pas qui ils sont, parce que la même personne est MNLA, après il est MCA, après il est, je ne sais pas, il est MA. Donc il est très difficile de faire le distinguo entre eux. Ils sont tous armés, il est difficile aujourd'hui de dire qu'on va les désarmer. Il faut que la communauté internationale sache qu'il n'y a pas de différence entre ces gens. Il n'y a pas de différence. Tant que nous allons essayer de faire la différence entre ces gens, nous, on ne va pas s'en sortir. C'est ce qu'il faut savoir.
Alors, madame a demandé la parole. Madame, vous avez la parole pour réagir.
Je veux abonder dans le même sens, parce que c'est un problème qui dure, hein, qui perdure depuis plus de 50 ans. Il est temps qu'on s'arrête à un moment pour accepter ensemble qu'on ait une lecture commune par rapport à la définition, par rapport à la qualité des groupes armés. Il est temps, vraiment. Durant tout ce temps, on n'a jamais eu une lecture commune des causes profondes de leurs agissements. On n'arrive pas à avoir une lecture commune de ces qualités. Parce que le problème qui se pose, qui est djihadiste, qui est indépendantiste, qui est terroriste, tout ce que l'on sait, eux, ils commettent des actes de terrorisme qui sont sanctionnés, qui sont prévus et sanctionnés par la législation en vigueur et par les conventions internationales. Par rapport à l'accord de Ouaga, l'accord de Ouaga a demandé clairement le désarmement, a demandé clairement le cantonnement. On était d'ailleurs à la mise en œuvre de l'accord de Ouaga, aidé par la MINUSMA, conformément à la résolution 2100 qui dit aider les autorités de transition à arrêter, à exécuter des programmes de désarmement, de mobilisation, de réintégration des ex-combattants et de démantèlement des milices et des groupes d'autodéfense, conformément aux objectifs de réconciliation et compte tenu des besoins propres aux enfants démobilisés. On a commencé même à identifier les sites.
Une trentaine à peu près.
Ça a été identifié. À notre grande surprise, on n'a pas pu faire la mise en œuvre effective de cela, compte tenu de leurs ambitions de commettre des exactions, de continuer leur basse besogne contre nos populations.
Alors,
il est temps. Tant qu'on ne se rend pas compte que MNLA, Moujaou, ACMI, c'est le même dénominateur commun, on ne pourra pas s'en sortir.
Comment est-ce qu'il faut convaincre la communauté internationale aujourd'hui sur cette connivence?
Le dénominateur commun, on le sait, ils sont tous des narcotrafiquants. On le sait. Ils font tous des exactions contre nos populations, de tout genre, contre les femmes, contre les enfants, au vu et au su de toute la communauté internationale, régionale et de nos populations. Alors, donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a une différence. C'est des gens qui ont beaucoup de stratégies. Ils ont plus de stratégies, des moyens beaucoup plus sophistiqués que nos États. Donc il faut, moi je dis qu'il est important à ce niveau que l'on ait une lecture commune de la qualité de ces groupes.
Alors Ousmane Kornio a quelque chose à ajouter.
Oui, je crois que c'était pour un peu éclairer la lanterne de l'opinion nationale. Quand on parle de DDR, quand on parle de désarmement, on ne désarme pas des terroristes. On ne cantonne pas des terroristes. On désarme et on désarme des combattants qui ont accepté d'aller dans la voie de la paix. Mais quand on est terroriste, dans le jargon de la sécurité, on combat les terroristes. Donc ce qu'il y a à faire, si on doit travailler avec ces groupes-là, il y a d'abord à travailler avec eux, à faire la séparation. Qui est combattant et qui réclame quelque chose dont on peut savoir et autour duquel on peut négocier?
Est-ce qu'il est aujourd'hui facile de
différencier? Mais c'est ça, je crois que la négociation doit commencer par ça d'abord. À l'heure où on est, c'est cette clarification qu'il va falloir faire.
Donc l'approche n'est pas bonne pour le moment.
Voilà, il va falloir faire et négocier avec eux-mêmes qu'on soit tous dans le même camp. Qu'on soit tous dans le même camp et qu'on se mette face aux terroristes. Et en ce temps, ce premier accord étant fait, on peut s'accorder entre nous de comment on va gérer la suite de la paix. Mais pour le moment, tant qu'ils sont tous confondus, on ne peut pas négocier, ni cantonner, ni désarmer des terroristes. Alors, il va falloir clarifier les
Cheikh
choses.
Cheikh Oumar Diallo, place juste deux mots, madame, et puis je vous donne la parole. Cheikh Oumar Diallo.
Ah. Oui, je vois qu'on donne beaucoup plus la parole aux hommes qu'aux femmes.
Allez-y, madame.
Rétablir l'équité tout de suite.
Je lui cède la parole et je prendrai après.
Moi, je veux que l'on constate tout simplement l'amalgame et la confusion délibérée qui a été orchestrée et qui continue d'être orchestrée par ces groupes. C'est de l'évidence du cogito ergo sum. Et quand il s'agit de cantonnement et de désarmement, je faisais partie des personnes adhérentes à l'accord de Ouaga en ma qualité de cadre de concertation Gandakoui. Je faisais partie, j'étais à Ouaga. Mais le désarmement, le cantonnement ne concerne que les signataires, MNLA, HCA, MAA, et les mouvements d'autodéfense. Donc, quand on demande à ce qu'on désarme et qu'on cantonne, il s'agit des personnes qui ont signé les accords.
Oui.
La mise en œuvre les concerne. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Bon, par rapport au combat pour le terrorisme, bon, je suis d'accord que pour le terrorisme, pour ce que Cornio vient de dire, mais il faut convenir quand même qu'ils ont délibérément fait l'amalgame autour d'eux, la confusion, pour qu'on trouve difficilement, qu'on n'arrive pas à trouver la différence entre eux.
Okay. Alors, nous donnons la parole à Cheikh Oumar Diallo, politologue.
C'est ça. Donc, merci. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le cantonnement et le désarmement concernent ceux qui sont signataires et qui s'inscrivent aussi. On peut ne pas être signataire, mais s'inscrire dans le cadre des accords de Ouagadougou. Ça, c'est également un des aspects de la diplomatie et du droit international qui le permet. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on peut croire, à juste titre, qu'effectivement, c'est eux qui commettent des attentats et c'est eux qui commettent des actes de terrorisme. Mais en réalité, tout ce qui tient sur le plan international, sur le plan diplomatique, sur le plan du droit international, c'est la revendication. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire,
On peut faire tout ce que l'on veut, mais malheureusement, les attentats, les prises d'otages, tout ce qui concerne les tueries ne sont pas revendiqués ni par le MNLA, ni par le HEA, ni par ces groupes. Donc, si nous voulons rentrer dans un processus où nous voulons réussir à combattre ce terrorisme-là, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'abord de les convaincre, de les forcer à rentrer dans le processus de négociation, d'aboutir à un cantonnement effectif et à un désarmement. Et à partir de là, comme je l'ai dit, ceux qui auront toujours des armes seront légitimement considérés comme des terroristes et nous pourrons les combattre. Mais tant que cela ne sera pas fait, nous n'avons pas de moyens réels de pouvoir savoir qui est terroriste. Parce qu'ils tiennent des revendications politiques et les défendent sur le plan international politiquement. Donc, on ne peut pas. C'est pas facile, c'est pas aussi simple que ça.
Alors, la MINUSMA, juste avant de vous passer la parole, monsieur Aya, la MINUSMA subit des brimades au sud tout en subissant des actes suicides au nord. Quel soutien doit-on apporter aujourd'hui à cette force, Ousmane Cornille?
Oui, je crois que la MINUSMA est en train d'être victime de sa propre politique.
C'est-à-dire,
quand on vient dans un pays pour aider à stabiliser, ça veut dire que c'est pour aider à lutter contre les menaces. Mais si vous-même vous êtes menacé, si ceux, vos locataires, ceux chez lesquels vous êtes, ils sont menacés, ils ont été menacés, ils ont été tabassés, devant vous, vous n'avez rien dit. Mais le deuxième, demain, c'est votre tour. Ce qui fait que l'AMINUSMA doit changer le fusil d'épaule, doit changer de stratégie, doit changer sa mission. On n'a pas besoin de la mission actuellement telle qu'elle se présente au Mali pour l'AMINUSMA. Nous avons besoin de la mission ancienne de l'AMINUSMA, c'était qu'on croyait qu'on avait déjà combattu les djihadistes et qu'il y a quelques tribus qui sont dispersées et que le MNLA, le HCA et tous les autres, les MA, ils sont rentrés dans la dynamique de l'accord de Ouaga. Donc on doit essayer de stabiliser, aider à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles menaces. Et aujourd'hui, on constate que sur tout le territoire, sur tout le nord, tout est menace. Alors, il n'y a que des menaces. Et face à rien que des menaces, on ne peut pas dire qu'on est là pour stabiliser. Il faut aider d'abord à établir un certain seuil de sécurité avant la stabilisation.
Alors, pensez-vous que la MINUSMA puisse se plaire dans cette situation où elle-même est attaquée et avec la dernière attaque en date, 4 morts quand même dans ses rangs?
Oui, c'est les conséquences. J'ai dit qu'elle est en train de subir les conséquences de sa propre politique.
Mais que peut-elle faire pour changer la donne?
Non, ce qui va se passer, c'est que nous l'avons demandé, le Mali l'a bien demandé et l'opinion nationale a demandé que la mission de l'AMINUSMA soit revue. Et je crois que ça, c'est un harcèlement de l'AMINUSMA. Et je crois qu'à l'issue de cet harcèlement, eux-mêmes vont demander à pouvoir se défendre, eux-mêmes vont demander à ce que leur mission soit changée afin qu'ils assurent leur propre sécurité et assurent ensuite la sécurité des populations.
Alors, madame.
Bon, par rapport à l'AMINUSMA, on se rend compte que l'AMINUSMA, son mandat, ce n'est pas de s'interposer, c'est de rester neutre. Et on s'est rendu compte de la limite du mandat et de ses conséquences. C'est pourquoi, à juste titre, le 8 mai 2014, le collectif des acteurs de la paix que je représente et tous les acteurs de la société civile on fait un document de proposition par rapport à certains points, c'est-à-dire solliciter des pays contributeurs à respecter leur engagement en envoyant les troupes et les moyens y afférents, déployer l'AMINUSMA dans toutes les zones d'insécurité.
Vous pensez que ceci n'est pas respecté?
Je dis, c'est un document qui a été fait le 8 mai 2014, où la société civile a demandé ensemble, d'une même voix, à ce que l'on revise le mandat, la mission de l'AMINUSMA. Et parmi ces missions qu'on a demandées, c'est de solliciter, d'envoyer des troupes et les moyens afférents et de renforcer la sécurité dans les zones qui en ont besoin.
Alors,
Or, ce n'est pas le cas, parce que l'AMINUSMA doit avoir une position quand même neutre.
Alors, sur cette question, Amadou Aya n'a pas encore parlé, et encore moins Cheikh Oumar Diallo. Nous allons en pause quelques secondes et je vous donne la parole. Mm-hmm.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous arrivons à la troisième et dernière partie du Grand Dialogue du Studio Tamani et nous parlerons de l'interpellation du gouvernement et de la suite des négociations. Nos invités, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Maître Khadija Traoré du collectif des acteurs pour la paix, Cheikh Oumar Diallo, politologue, et Amadou Aya du parti ILMA, parti du Premier ministre. Alors, juste avant d'entamer cette troisième et dernière partie, la MINUSMA, nous allons parler de la MINUSMA. Nous permettons à Amadou Aya d'intervenir sur cette question de la MINUSMA.
Je pense que, comme l'a dit Maître, la visite du Premier ministre à Kidal a révélé la nécessité, n'est-ce pas, de revoir le mandat de la MINUSMA. Et je crois que le gouvernement également a dépêché une mission aux Nations Unies pour demander à la communauté internationale de revoir la mission de la MINUSMA. Je pense que c'est un impératif si on veut résoudre ce problème du Nord. Si nous avons des gens qui créent l'amalgame, qui créent la confusion, et comme l'a dit Cornu, on ne sait pas la différence nette entre les différents groupes, qui est djihadiste, qui est terroriste, qui est indépendantiste. Donc il faut, c'est-à-dire que la MINUSMA ait le mandat de comme le disent les militaires, de cogner, les forcer à amener sur la table de négociation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que le mandat de la MINUSMA soit revu sous le chapitre 7, n'est-ce pas,
Alors nous avons reçu le secrétaire général, enfin le chef de la MINUSMA, Bert Konders, qui disait que la MINUSMA est sous chapitre 7, mais certes, on n'a pas totalement atteint tous les étages. Alors, Cheikh Oumar Diallo a envie d'ajouter quelque chose
Tout à fait. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut un mandat plus robuste pour la MINUSMA. Mais ce que je voudrais rappeler, encore une fois, c'est que nous sommes dans le cadre de l'intervention de deux principales forces, qui sont Serval et la MINUSMA. Serval est intervenu dans le cadre de la restauration de l'intégrité territoriale du Mali à travers la lutte contre ces djihadistes qui ont pris une moitié du territoire. Et la MINUSMA est venue dans le cadre d'un mandat de stabilisation et d'accompagnement du processus de négociation. Et je pense que tant que nous n'aurons pas réussi, parce qu'elle est venue en trouvant un accord de Ouagadougou qui établissait que certains de ces groupes-là étaient des gens avec qui on doit parler. Et clairement et nettement, elle est venue dans ce cadre-là. Donc comment voulez-vous que dans le cadre d'un droit international qui établit que la MINUSMA vient en trouvant certaines parties que sont le MNLA, le HEUA, le gouvernement malien et d'autres, comment voulez-vous qu'elle puisse lever et prendre des armes quand elle entend des coups de feu comme ça? Ce n'est pas comme ça qu'elle pourra se lever. Il faut qu'on trouve le moyen, comme je le dis et je le redis, de cantonner définitivement les groupes armés, de les désarmer, et une fois qu'ils seront désarmés, là, le mandat de la MINUSMA, je suis convaincu qu'il changera très rapidement pour entrer dans un mandat beaucoup plus offensif qui permettra de combattre tous ceux qui, après ce désarmement, continueront à porter des armes. Mais tant que cela ne sera pas fait, je doute que le mandat de la MINUSMA puisse évoluer.
De ce pas, nous entrons dans la troisième partie de ce débat, l'interpellation du gouvernement et la suite des négociations. Peut-on alors aujourd'hui envisager un agenda pour les négociations, Ousmane Cornu?
Oui, j'ai commencé tout à l'heure par l'agenda. J'ai dit que la première des choses, c'est d'abord de travailler. On est obligé de dialoguer. Dialoguer à éclaircir les positions. C'est-à-dire que je serai de cette mission. La première des choses que je tenterai de faire, c'est d'essayer d'amener ces groupes, le MNRA, le HCUA, le MMA, MRA et les autres, à ce qu'on puisse assigner un accord d'abord contre le terrorisme. Qu'on se mette d'accord qui ne sont pas terroristes et que, comme nous, on est prêts ensemble à combattre les terroristes. Et là, maintenant, on signe cet accord
ensemble, on élabore maintenant un plan de négociation entre nous, mais aussi un plan de lutte contre le terrorisme. Mais tant qu'on ne touche pas ce terrorisme-là, et qu'on veuille simplement négocier avec eux directement, alors que pour le moment, ils portent les deux chapeaux, je ne pense pas qu'on puisse avancer.
Ok. Alors, peut-on s'attendre aujourd'hui à une unanimité sur le lieu de négociation désormais, sachant qu'il y a Ouagadougou, Bamako et Alger, madame? Madame Khadija.
Bon, vous savez, pour moi, à l'heure où nous sommes, le lieu idéal, c'est notre pays. Mais à l'impossible, nul n'est tenu.
Mais Bamako a montré ses limites.
À l'impossible, nul n'est tenu. C'est pourquoi je disais à l'impossible, nul n'est tenu. On est d'accord quand même de se mettre quand même sur la table pour discuter, pour échanger, pour se comprendre. J'avais dit tantôt, depuis 1963, on ne sait jamais pourquoi nos frères sont en train de commettre de tels actes ignobles. Il faut qu'on se parle. L'intérêt, ce n'est pas où se parler, là où nous sommes. Parce que chaque jour qui passe, le bilan est important. Le bilan par rapport aux désastres, par rapport aux exactions, par rapport aux violations massives des droits humains, des droits de la femme, chaque jour ça s'élève. L'important, c'est que nos frères acceptent d'abord de désarmer. On ne peut pas discuter, échanger avec son frère, arme à la main. Il faut déjà, vite et bien, procéder au désarmement. Et ensuite discuter, échanger. C'est normal. Et on doit le faire. C'est urgent.
Alors, quelle sera la place ou le rôle de la communauté internationale pour les négociations futures, Amadou Gaïa, du parti ILMA?
Oui, bon, moi, je crois qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que Bamako n'a pas montré ses limites.
C'est-à-dire?
Non, en fait, c'est la volonté, c'est la mauvaise volonté, n'est-ce pas, de nos frères qui ne veulent pas venir négocier. Ils sont chez eux. Ils sont les bienvenus à Bamako pour négocier. Là, il y a leur sécurité à
assurer. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le 17 mai, est-ce qu'il est possible pour les groupes armés de venir à Bamako?
Oui, mais ce qui s'est passé le 17 mai, ils sont également, c'est leur volonté toujours de brouiller les choses.
Donc,
je pense que ce n'est pas question de limiter. Je crois que c'est question de bonne volonté à vouloir aller vers la paix. Et je pense que la communauté internationale a un rôle extrêmement important parce que puisqu'elle est également aussi signataire de l'accord cadre, elle doit accompagner, n'est-ce pas, tous les signataires, le gouvernement à aller vers la paix. Et je pense que le gouvernement était dans cette dynamique parce qu'il est important de rappeler que les autres crises se sont terminées, n'est-ce pas, avec des accords entre les groupes et l'État. Mais cette fois-ci, le mal est tellement profond qu'il faut aller vers un dialogue inclusif. Il ne s'agit pas aujourd'hui que le MET, que tous ces groupes et le gouvernement s'asseyent pour dire « bon, ok, nous sommes d'accord, on signe des accords de paix ». Ce n'est pas fini, ça ne peut pas mettre fin à cette crise qui est extrêmement profonde. C'est la première fois que depuis 1963 qu'on a eu une exaction extrêmement grave, des viols, des enlèvements, c'est pas, c'est extrêmement grave. Donc moi je pense qu'il est important que on se mette dans la dynamique d'un dialogue inclusif. Et je pense que le gouvernement était, n'est-ce pas, dans cette lancée. Puisque ces gens, ils veulent embrouiller, ils ont profité d'une visite pour, n'est-ce pas, passer à une autre stratégie.
Alors, c'est des actions qui restent encore confuses dans ce domaine-là. Nous allons permettre à Cheikh Oumar Diallo, politologue... Oui, après vous allez réagir, madame. Cheikh Oumar Diallo, politologue, de réagir par rapport à ça. Mais j'ai une question pour vous. Les actions djihadistes compromettent-elles aujourd'hui les négociations, Cheikh Oumar Diallo?
Je pense qu'au contraire, ça peut être, malheureusement, c'est très triste, et d'ailleurs je m'incline comme tout le monde sur la mémoire de chacun des disparus, mais ça peut être un facteur accélérateur de ces discussions, dans le sens où il va bien falloir au bout d'un moment que face à ces agressions répétées, que la communauté internationale, elle aussi, se saisisse encore plus
vigoureusement du dossier pour amener à ce qu'il y ait un désarmement qui permette d'engager cette lutte contre le terrorisme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la France, les États-Unis, le Tchad, l'Algérie sont engagés dans une opération militaire massive dans le sud algérien et dans l'ouest libyen, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont vraiment impliqués dans ce dossier-là et ont tout intérêt à ce que cette terreur cesse, que la prolifération des armes surtout cesse et qu'au-delà de cela, les trafics qui conduisent justement à l'enrôlement massif de ces gens-là, avec l'argent qu'ils génèrent, eh bien, puissent connaître un terme. Donc je pense que ça peut amener à tout cela et dans le sens des négociations, j'ai une sorte de théorie du 2-2.
C'est-à-dire ?
Deux voies et deux phases. Les deux voies, c'est celle d'Alger et de Ouagadougou. Alger, parce que, bien évidemment, nous connaissons quelle est l'importance de la population Touareg dans la population algérienne. Elle représente près de 20% de la population algérienne, donc je pense qu'elle a tous les moyens de pouvoir faire asseoir ces groupes-là. D'ailleurs, elle l'a prouvé avec la déclaration d'Alger, pour qu'ils puissent convenir d'accepter d'aller au dialogue. Donc cette voie-là doit être encouragée afin qu'on puisse rapidement les ramener à la table des discussions. Mais il y a la voie de la solidarité communautaire, de la CEDEAO, qui s'exerce à travers justement cet accord de Ouagadougou, que nous devons exploiter le mieux possible. Moi, j'ai été parmi ceux qui dénonçaient certaines des insuffisances de l'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul acquis international que nous avons qui puisse nous amener. Il parle de désarmement, de cantonnement, d'arrangement sécuritaire, de retour de l'administration. Il parle de beaucoup d'aspects qui sont liés justement à la résolution de ce processus de discussion. Et je suis convaincu qu'une fois cela obtenu, les deux phases seront d'abord l'accord avec les groupes armés qui accepteront le cantonnement et le désarmement de manière définitive, parce que nous sommes dans un accord préliminaire, il faut arriver à un accord définitif, et ensuite un dialogue inclusif avec l'ensemble des populations maliennes, parce qu'elles ne sont pas exclues des revendications qu'il peut y avoir en termes de développement, aussi bien à Kaï, qu'à Sikasso, qu'à Kidal, qu'à Tombouctou. Tout le monde a envie aujourd'hui de parler de ce problème de l'organisation du Mali, de ce problème du développement du Mali, des fléaux qui sévissent, corruption, délinquance financière, tout cela sont des choses auxquelles tout le monde a besoin de s'exprimer. C'est ce dialogue-là qui doit venir après l'accord qui désarme les groupes armés.
Alors, 30 secondes pour tout le monde. Nous n'avons plus de temps. À 19h, nous devons arrêter cette émission. Madame, nous vous donnons 30 secondes pour nous dire votre point de vue sur la souffrance des populations civiles aujourd'hui qui n'ont pas demandé la guerre.
La souffrance des personnes qui n'ont pas demandé la guerre est incommensurable. On n'a jamais compris.
Quel plaidoyer faites-vous pour eux aujourd'hui ?
D'abord, on n'a jamais compris pourquoi la cause de la crise, c'est les rapports entre l'État et les groupes armés. Mais les victimes sont les populations du Nord. On n'a jamais compris ça. Et chaque fois, on me demande à ce que l'on négocie, la qualité avec qui négocier. C'est djihadiste. Il y a des étrangers là-dedans. Il faut qu'on fasse la part des choses.
Merci,
il
madame.
Faut qu'on connaisse la qualité des parties.
Merci,
il y a
madame.
Eu tellement d'accords. Il est temps qu'on aboutisse à des accords durables.
Difficile d'arrêter une mère de famille quand il s'agit de ses enfants. Alors, Ousmane Cornillo,
oui,
30 secondes.
Je donne la réponse à la question qu'elle vient de poser. Qu'en fait, pourquoi on s'attaque aux pauvres femmes, aux pauvres jeunes? C'est parce qu'en 63, c'était une révolte, ce n'est pas une rébellion. 91 et 2006, c'était des rébellions. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas une rébellion. Nous avons une autre forme, très complexe, rébellion, djihadiste. Il va falloir éclaircir ceci-là pour pouvoir résoudre le problème.
Alors, Amadou Aya, deux mots.
Mais exactement. La souffrance de ces populations qui n'ont pas demandé la guerre, comme l'a dit madame, est incommensurable. Il est difficile de pouvoir de vivre, n'est-ce pas, cette souffrance si vous ne l'avez pas vécue.
Cheikh Omar Diallo.
Moi, j'invite les uns et les autres, je fais un peu de promotion, à lire mon dernier livre qui s'appelle « L'illusion perdue, géopolitique et stratégie crédible pour une sortie de crise au Mali ».
On vous enverra la facture.
Voilà. Gratuitement sur internet, www.malibuzz.com.
Attendez-vous à la facture. C'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan, mais sans cette goutte d'eau, il manquerait quelque chose à l'océan. Madame, Messieurs, ces mots sont de Mère Teresa et et nous nous quittons sur ces mots. Merci d'avoir été des nôtres. Le thème du jour portait sur la menace djihadiste qui pèse toujours sur le Mali. Les axes du débat portaient sur la déclaration de Moussa Mara. Était-elle une impuissance du Mali? L'ultimatum des trois groupes à les rejoindre est-il conforme à l'accord de Ouagadougou? L'interpellation du gouvernement et la suite des négociations. Nos invités, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Maître Khadija Traoré du collectif des acteurs pour la paix, Cheikh Oumar Diallo, politologue, et Amadou Aya du parti Yelema. Merci messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Famoussa Sidibé était à la présentation, Ousmane Diadé Touré l'a réalisé. Cette émission dont la mise en onde était assurée par Petting Diarra. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halo de Maundi.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.